Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Soyons réalistes, demandons l'impossible. En mai 68, ce slogan fleurissait sur les murs de Paris. Aymeric Caron n'était pas né en mai 68, mais ce rêve d'un monde idéal où l'humain, l'animal et le végétal seraient préservés, respectés, a très tôt infusé en lui. Ses combats pour l'écologie ou pour l'antispécisme, l'antispécisme qui refuse la suprématie de la race humaine sur toutes les autres espèces du vivant, donc sur les animaux, eh bien lui ont valu d'être considéré comme un extrémiste. Mais Aymeric Caron, nuance, n'est pas extrémiste, il est radical. Radical car il est urgent que le monde change. Son nouveau livre, écrit comme un journal de bord en pleine pandémie, paraît chez Albin Michel et a pour titre « La revanche de la nature ».
Europe 1.
Bonjour Aymeric Caron.
Bonjour Isabelle.
Alors Aymeric Caron, on ne parle plus que du monde d'après, l'élément à partir duquel, en fait, il faut l'imaginer, bien sûr, c'est en étant ce confinement quasi planétaire qu'on a connu. Mais en 2018, 1,5 million de personnes sont mortes de la tuberculose. Chaque année, la pneumonie et les infections gastro-intestinales tuent 1,4 million enfants. La pollution de l'air et de l'eau, 12 millions de personnes. La sous-nutrition, 3 millions d'enfants. Et la résistance aux antibiotiques provoquera, dans 30 ans, paraît-il, 10 millions de décès chaque année. Et puis, en attendant, bien sûr, la grippe saisonnière tue 650 000 personnes par an. Alors, selon vous, pourquoi cette panique absolue devant le Covid-19 ?
Moi aussi, je m'interroge à savoir pourquoi il y a eu cette panique généralisée. Je pense que la raison principale, c'est que ce virus et ses conséquences étaient extrêmement visibles. La plupart des choses que vous venez de mentionner, de ces maladies ou de ces fléaux comme la famine, d'abord, ça se passe loin de nos yeux. Hein. Quand c'est la famine, ça se passe très souvent. Les victimes dont on vient de parler sont assez éloignées de l'Europe. Donc déjà, on s'y intéresse un petit peu moins, l'Europe ou des États-Unis, bref, des pays riches.
Et ça reste des chiffres.
Donc, voilà, bien sûr, en plus, ça c'est le gros problème, mais ça va être la même chose avec la Covid et ce que nous avons vécu nous. C'est-à-dire qu'on est à 30 000 décès en France, 30 000, c'est énorme et en même temps, c'est un chiffre que dans un an ou deux ans, on aura oublié. Donc, je pense que là, les conséquences étaient extrêmement importantes, visibles immédiatement, et que les autorités ont craint, les autorités occidentales, dans les pays comme la France, ses voisins, les États-Unis, ont craint que tout à coup, on voit immédiatement des dizaines et des centaines de milliers de victimes dans les hôpitaux tout de suite, et ça aurait été insoutenable pour beaucoup de gens.
Alors, les virus sont apparus au tout début de l'histoire de la vie sur Terre, entre 3 et 4 milliards d'années avant l'homme, et ils ont joué un rôle majeur dans l'évolution du vivant. Il paraît que nous transportons chacun dans notre corps 3 milliards de virus, dont certains d'ailleurs très utiles contre certaines bactéries pathogènes. Mais le scénario prévu est que les virus nous survivront après avoir provoqué notre disparition, c'est ça ?
Oui, probablement. Alors, il est toujours très compliqué de jouer les Nostradamus. Mais c'est vrai que
les scientifiques ont une petite idée tout de même.
Il y a beaucoup d'inconnus, mais ce qui est exact, c'est que les virus sont présents sur Terre depuis bien plus longtemps que les humains. Et c'est notamment grâce aux virus que nous sommes apparus, puisque les virus ont permis l'apparition de la vie complexe, en commençant déjà par créer les cellules complexes, avec les cellules avec noyaux. Puis ensuite, ils ont participé à la création du placenta, le placenta qui a permis aux mammifères d'exister. Et nous sommes des mammifères, c'est-à-dire qu'on peut porter un bébé. Et dans un certain nombre de mécanismes de la vie, comme ça, à chaque fois, c'est le virus qui intervient, un virus qui intervient et qui change légèrement le code qui était en vigueur et qui permet une évolution du vivant. Donc, en effet, le virus n'est pas forcément négatif, il est même très souvent positif, ou alors il a un effet neutre sur des individus comme vous et moi. Puis certains, en revanche, effectivement, sont dangereux pour les humains ou pour des animaux non humains. Est-ce que les virus vont nous survivre ? Oui, probablement. En tout cas, vu le chemin que ça prend, à savoir que nous sommes en train, nous, de nous auto-détruire. Alors là, ça ne se voit pas forcément de manière extrêmement visible, parce que là encore, ce sont des morts qui ne font pas beaucoup de bruit, parce que ça va être des gens qui vont mourir sur un lit d'hôpital, d'un cancer par exemple. Et alors, pour faire le lien entre la pollution, etc., voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, oui, nous sommes en train de nous détruire, en plus, bien évidemment, de détruire tout ce qui nous entoure. Et l'Homo sapiens, en tout cas, lui, cette espèce-là, oui, elle va s'éteindre, ça c'est sûr et certain. On ne sait pas si elle sera remplacée par une autre espèce humaine ou si le genre humain va disparaître.
Mais alors, restons un moment sur les virus. Au moment où nous parlons, le réchauffement climatique qui fait fondre le permafrost en Alaska, au Canada, en Sibérie, libère des virus qui remontent à la genèse de l'humanité et même à avant. Ces virus-là, en fait, ils nous sont totalement inconnus.
Il y a des virus qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas. Effectivement.
Ils sont inconnus. et potentiellement dangereux, puisqu'inconnu.
Il y a des virus et des bactéries, et effectivement, les chercheurs ont réussi à réactiver des virus de 30 000 ans, qui ont été libérés, deux virus géants de 30 000 ans, qui ont été libérés effectivement, par la fonte du permafrost. Donc on peut imaginer la catastrophe.
Pourquoi les avoir réactivés ?
Pour voir si c'était possible. Parce que tout simplement, on a envie de savoir quel est le risque auquel nous sommes exposés. Et le fait est que là, les deux virus en question étaient inoffensifs. Puisque comme nous venons de le dire, les virus sont souvent inoffensifs. Mais en fait, il y en a qui peuvent être dangereux. Il y a par exemple la bactérie ce qu'on appelle la maladie du charbon, qui était enfermée en Sibérie, je crois. Et il y a quelques années, à cause de la fonte des glaces, cette bactérie s'est libérée. C'est une bactérie qui avait été congelée quelques dizaines d'années auparavant via des rennes qui étaient morts de cette maladie. Cette bactérie a été réactivée et a tué à nouveau des rennes, plus un petit enfant. Donc on voit bien qu'il y a des agents pathogènes dans le permafrost, en effet, qui menacent d'être libérés avec la fonte des glaces.
Alors puisqu'on parle de l'activation en fait, des virus, dans certains laboratoires, l'homme joue beaucoup à l'apprenti sorcier, d'où la rumeur d'ailleurs de la naissance du Covid-19 dans un labo de Wuhan. Mais force est de constater que la Chine, géographiquement, à défaut de l'être scientifiquement, elle est tout de même géographiquement le pays déclencheur des épidémies dues à des virus. Par exemple, le SRAS a démarré en Chine en 2002, le H1N1 est apparu en Chine en 2009 et le Covid-19 a démarré en Chine en 2020. Faut en penser quoi ?
Bah, c'est pas forcément juste un hasard, mais c'est vrai que l'Asie, en général, c'est un endroit dans lequel les conditions sanitaires sont sans doute plus aléatoires, on va dire, que les nôtres ici en Occident, ce qui favorise bien évidemment la diffusion des épidémies, des pandémies, des zoonoses. Mais nous, on n'est pas non plus complètement bien parés contre ce genre de choses, puisqu'il y a des pandémies qui se diffusent en Europe, en Occident, aux États-Unis, en utilisant nos biais à nous, par exemple nos élevages industriels.
Oui, bien sûr. Oui, mais là... Puisqu'on sort justement de la pandémie du Covid-19, bon, la communauté scientifique nous a dit que ce fameux Covid était apparu sur des chauves-souris. Mmh. Au moment où nous parlons, Émeric Caron, il y a des sections animaux sauvages sur les marchés de Wuhan, ces marchés d'où est partie l'épidémie, avec donc des marchés à ciel ouvert avec des chauves-souris, des pangolins, des porcs-épics et des serpents, tous vendus vivants dans des cages en vue d'être consommés. Pourquoi la Chine dit-elle aux Occidentaux que la consommation d'animaux sauvages a été interdite alors que on sait que c'est faux.
Bon, il y a énormément de paradoxes entre les règlements officiels et puis ce qui se passe effectivement dans la réalité. Mais nous aussi, on a des tas de lois qui ne sont pas respectées en ce qui concerne le bien-être animal. Et puis là, il y a des mesures toutes nouvelles qui viennent d'être prises. Donc, c'est le trafic d'espèces sauvages, je crois, qui vient d'être interdit, me semble-t-il. Mais la pression économique est tellement forte dans un pays comme la Chine. Il y a énormément de gens qui vivent aujourd'hui des petits paysans qui vont effectivement aller vendre. Parce qu'il y a à la fois des animaux sauvages et des animaux domestiques qui se retrouvent sur ces marchés. Alors, en effet, les animaux sauvages, me semble-t-il, si j'ai bien compris, mais avec la Chine...
Dans des sections particulières, c'est ça ?
Non, pas du tout. Mais en tout cas, je crois qu'il y a effectivement une loi qui, maintenant, stipule que les animaux sauvages n'ont plus le droit d'être consommés en Chine et vendus sur ces marchés. Mais malheureusement, on sait qu'il y a énormément de contrebande et puis que la loi en ce domaine a beaucoup de mal à être respectée. Je pense qu'il faudra un certain temps avant que cette loi soit réellement appliquée parce que, une fois de plus, il y a énormément d'argent qui est en jeu. L'argent d'ailleurs qui concerne, là on n'est pas dans des grands groupes industriels, on n'est pas sur des théories du complot, on est sur beaucoup de petites gens qui se nourrissent comme ça, qui en trafiquant des animaux. Donc c'est compliqué pour les autorités aussi de mettre un grand coup de balai là-dedans parce qu'ils ont peur de créer un grand mouvement populaire de manifestation.
Alors, en tout cas, 75% des maladies infectieuses émergentes sont transmises par des animaux. En fait, au début de la chaîne, il y a des animaux sauvages qui fuient, par exemple, la déforestation, qui viennent s'abriter dans des zones où vivent les hommes. Ça a été le cas pour les chauves-souris ?
Mais c'était le cas de certaines maladies, par exemple la diffusion du virus Ebola, ça s'est passé comme ça en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, parce qu'effectivement il y avait de la déforestation, donc qui était les forêts, c'est l'habitat naturel des chauves-souris. Comme on réduit l'habitat naturel de ces animaux sauvages et qu'on construit de plus en plus près de ces forêts, ces chauves-souris vont essayer de trouver notamment leur nourriture ailleurs, vont par exemple aller se nourrir dans des vergers à proximité des habitations. Donc elles vont déféquer sur des fruits que des animaux vont manger, que nous-mêmes nous allons manger. Enfin, elles vont laisser des fluides sur place. Et effectivement, ça favorise ce rapprochement physique. Ou alors, ça peut être une chauve-souris qui va manger un petit animal, qui sera mangé par un autre petit animal. Enfin, c'est vrai que le rapprochement, en tout cas, entre les humains et les animaux sauvages, favorise largement la diffusion des pandémies.
La revanche de la nature, signée Émeric Caron, vient de paraître chez Albin Michel. On le retrouve tout de suite. Et si la nature allait finir par se venger de nous, Le nouveau livre d'Émeric Caron est une alerte. La revanche de la nature, paraît chez Albin Michel. Émeric Caron, vous êtes un enfant des années 70, époque où la conscience écologique n'avait pas encore réellement émergé. Quand avez-vous commencé à militer ?
De manière tout à fait objective, j'ai pris une carte d'un parti politique qui était Les Verts à l'époque. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Donc j'ai eu envie de m'engager sur ces questions-là assez tôt en réalité. Puisque là, on est dans les années, on est en 89, 90, quelque chose comme ça, 88 peut-être, 88. On est à un moment où l'écologie politique commence vraiment à émerger en Europe, mais en France notamment. Et oui, ça m'intéresse très tôt, dès que je suis adolescent, je m'intéresse à ces questions. Après, il y a la question animale qui est encore un autre sujet, même si bien évidemment c'est complètement lié. Et puis ensuite, je vais mettre un peu ça de côté pendant une vingtaine d'années. Je vais me consacrer entièrement à mon travail. Je continue à militer, mais dans une sphère purement privée, puisque mon militantisme consiste à adopter des comportements personnels.
Oui, c'est ça, par compassion, en fait, vis-à-vis de la cause animale.
Oui, voilà, donc je ne mange plus de viande, ça, mais je le fais à chaque fois de manière extrêmement discrète, je n'en parle pas autour de moi, donc c'est pas vraiment du militantisme. À ce moment-là, je ne cherche pas à convaincre mes amis, mes proches, encore moins mes collègues. Donc,
et à un moment donné, il y a un événement fondateur ?
C'est le hasard. En réalité, un jour, on doit être en 2006-2007, je cherche un sujet, je suis journaliste, reporter à l'époque, et je dis, tiens, il y aurait peut-être quel pourrait être un beau sujet de documentaire ? Et je tombe sur un petit entrefilet dans un magazine qui explique que toutes les terres cultivables aujourd'hui sont utilisées en France, enfin dans le monde d'ailleurs, et qu'on en a, on n'en a plus à disposition et que ça pose un vrai problème, notamment en ce qui concerne la viande, puisque une grande partie des trois quarts des terres aujourd'hui cultivables sont utilisées pour faire pousser de la nourriture pour le bétail. Oui. Donc, ce petit entrefilet disait qu'il allait y avoir bientôt un problème, puisque non seulement on n'avait plus de terres pour cultiver la nourriture destinée au bétail, mais que par ailleurs, la FAO prévoyait une augmentation de 100% de la consommation de viande d'ici 2050. Et là, je me tiens, ah oui, il y a un vrai, vrai souci par rapport au fait de manger de la viande. À un moment, je me dis cette chose-là, à un moment où personne ne parle encore de ce sujet en réalité. Et à ce moment-là, moi, si je suis végétarien, je n'étais pas encore vegan, c'était en effet pour des raisons éthique, mais je n'avais pas englobé dans ma réflexion la question écologique et la question de l'utilisation des ressources nécessaires pour, comment dirais-je, pour élever toutes ces bêtes qu'ensuite on va manger.
Et puis une inversion de l'équilibre, parce qu'il y a de moins en moins d'animaux sauvages et de plus en plus, en fait, d'animaux d'élevage sur la planète.
Oui, parce qu'en termes de biomasse, on a calculé, il y a une étude qui a regardé ça.
60%, c'est ça ? Alors, on a d'animaux d'élevage ?
On a en effet 60% de la biomasse des mammifères aujourd'hui est constituée par les animaux d'élevage, contre 4% seulement par les animaux sauvages, et donc les 36% restants, ce sont les humains. Et pour terminer sur cette explication, sur la raison de mon engagement, donc à ce moment-là, c'est purement par un souci journalistique que je me dis, il y a un beau sujet à faire sur notre rapport à la viande et sur cette équation impossible entre le fait que de plus en plus de gens vont manger de la viande dans les années qui viennent et le fait qu'on n'a plus les capacités de ressources tout simplement pour créer, produire cette viande. Et donc, j'ai l'idée de faire un documentaire là-dessus, que tout le monde me refuse à l'époque. Je vais voir plusieurs producteurs qui se moquent de moi parce qu'effectivement, c'est un documentaire qui souhaite mettre en avant le végétarisme, en tout cas les vertus du végétarisme. Et là, le mot végétarien fait déjà rire quand j'arrive dans un bureau de producteur. Et je laisse ça de côté. Et en 2010-2011, à ce moment-là, je suis sur Europe 1. Oui, c'est la petite histoire. si, vous allez voir, vous allez comprendre l'histoire. Et à ce moment-là, j'enregistre des chroniques régulièrement, toutes les semaines. Je suis le partenaire de chronique de Jacques Attali.
Oui.
Et Jacques Attali et moi, à chaque fois que l'enregistrement est terminé, on prend un thé. Et on discute toujours un quart d'heure. Et pendant l'une de ces conversations, un jour, je lui dis « Mais vous savez, Jacques, de toute façon, un jour, on sera tous végétariens. » Et je lui explique l'argumentation que j'avais développée dans ce projet. Et Jacques me dit « Il faut que vous écriviez un livre là-dessus. » Et Jacques va m'aider à écrire ce livre qui s'appelle « Nostec » et qui sortira 2 ans plus tard. M'aider dans le sens...
Donc, c'est pas mal d'être adoubé par Attali, tout de même.
Voilà. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvé à écrire ce livre « Nostec » et à devenir presque malgré moi un militant.
Porte-parole.
Un porte-parole et un militant. Alors qu'au départ, c'était une démarche purement journalistique.
Alors justement, parlons du journalisme. Les études, Émeric Caron, les études de journalisme dans la fameuse école supérieure de journalisme de Lille, dont vous êtes sorti diplômé en 95. En fait, elle s'expliquait par l'envie d'aller vraiment sur le terrain, comme reporter de guerre, ce que vous êtes devenu, et il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Ou bien, vous vous imaginiez plus comme un analyste qui signe des papiers, des éditos ?
Non, je ne me voyais pas du tout comme analyste. L'idée était vraiment, en effet, d'être reporter. C'est une idée que j'ai eue à 12 ans à peu près, j'étais devant la télé, c'était la guerre du Liban à l'époque, j'ai vu un envoyé spécial qui était à Beyrouth, et je dis à mes parents, c'est ça que je veux faire, je veux être reporter de guerre si possible. J'avais déjà assez tôt cette notion, enfant, je me souviens m'être dit très consciemment, je veux un métier où je sois toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne voulais pas être dans un métier de la répétition.
On peut aussi apprendre sans se frotter forcément au danger. Reporter de guerre, c'est très particulier, parce que je dois préciser quand même que vous avez couvert des conflits comme le Kosovo, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Congo, l'Irak. Donc, vous êtes vraiment parti sur le terrain. Est-ce que vos propres rédactions, qui, elles, étaient à Paris, avaient conscience de la réalité que vous traversiez quand vous étiez dans les montagnes afghanes ou dans les rues de Bagdad ?
Oui, c'était pour, à l'époque, c'était pour Canal+, et je travaillais avec des gens qui savaient extrêmement bien où je partais et ce que j'y faisais. Donc, c'était le boulot de reporter de guerre, comme le font beaucoup de gens. Et c'était passionnant. C'est l'une des périodes les plus passionnantes de ma vie sur le plan professionnel. Mais c'est très important pour moi. C'est l'une des périodes qui m'a constitué intellectuellement, parce que j'avais envie, moi, de très tôt, d'aller me confronter aux autres humains, à ceux dont on me dit qu'ils ne me ressemblent pas. Alors qu'en fait, vraiment, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller sur tous les continents, et je peux maintenant vraiment attester du fait que tous les humains sont vraiment des cousins, des frères, quelle que soit la couleur de peau, la religion, la culture. En réalité, on est tous mus par la même énergie, et on a, pour beaucoup d'entre nous, exactement les mêmes réflexes.
Et pourtant, vous alliez les voir alors qu'ils étaient en guerre.
Oui, c'est ça qui m'intéressait.
Vous alliez couvrir que des conflits.
Oui, mais ça m'intéressait particulièrement d'aller étudier les humains en période de conflit, parce que je considère que beaucoup de notre vie sociale nous amène à avoir une personnalité qui est construite pour les autres dans certaines circonstances, mais que ce n'est pas forcément la réalité de notre personnalité qui s'exprime, et que dans des situations paroxystiques comme celle d'un conflit, c'est là que vraiment les âmes se révèlent. Donc voilà, et j'avais besoin, moi, de passer... faire 10 ans comme ça de reporter.
10 ans, vous l'avez fait.
Ou 8 ans, en tout cas, à peu près. Et j'avais besoin absolument de ça pour me construire en tant qu'être humain, pour mieux comprendre mes congénères.
Alors, d'autres caméras vous attendaient sur les plateaux des chaînes Info, avant de devenir polémiste dans l'émission de Laurent Ruquier. Entier, sans concession, c'est votre mantra. Hein. On fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Aymeric Caron. Aymeric Caron, des montagnes d'Afghanistan et des ruines de Bagdad qu'on évoquait à l'instant, au plateau des chaînes d'info où une maquilleuse vous prépare avant le direct. Bon, le métier de journaliste, il est franchement pas le même. Vous les avez aimées ces années passées à iTélé, à être l'intermédiaire entre le public et l'info qui arrive à chaud. Ça, c'était vraiment un autre exercice.
Oui, après avoir été reporter, effectivement, je suis retrouvé présentateur de matinale dans un rythme effectivement assez rapide. Ceci dit, en tant que reporter, on est aussi habitué à travailler très très vite. Bon. Donc l'urgence de l'actu, moi j'aimais bien ça. Et en revanche, de toute façon, je crois que dans la vie, il n'y a pas... et je crois que vous êtes bien placé pour en témoigner, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, on n'a pas qu'une vie, on n'a pas qu'un rythme, on n'a pas qu'une chose qui nous passionne. Donc cette histoire de l'urgence et de cette chose qu'on doit fournir en 2 heures, etc., c'était passionnant quand j'avais 25 ans, entre 25 et 35 ans. Puis à un moment, c'est vrai que j'ai eu envie d'autre chose.
Et puis alors, vous avez ici, sur l'antenne d'Europe 1, présenté des matinales pendant 2 ans, je crois. Lorsqu'on n'a pas l'image, ce qui est le principe bien sûr de la radio, on s'appuie sur un vocabulaire différent de celui de la télé, à votre avis ?
Oui, forcément, puisqu'on est obligé de décrire des choses qu'on ne décrirait pas à la télé. C'est vrai que c'est l'une des choses que j'ai apprises lorsque j'ai changé d'activité pour la radio. On m'a appris, l'équipe qui dirigeait Europe 1 à l'époque, effectivement, pendant quelques semaines, m'a habitué à faire une espèce de mue vers un langage radiophonique qui est un peu différent, mais qui est passionnant. Moi, je trouve que la radio, c'est absolument formidable d'être pouvoir être débarrassé de ce qui est pour moi un peu un carcan aussi, cette image, cette manière un peu fausse qu'on est obligé d'appliquer, c'est-à-dire ce regard caméra, comme si on parlait à quelqu'un. Là, il y a quelque chose de plus naturel dans cette conversation qu'on a avec quelqu'un, un auditeur, qui est une conversation en tête-à-tête quasiment qu'on a avec lui, avec chacun de ses auditeurs. Moi, je trouve que la radio, c'est vraiment un média extraordinaire.
Et puis a démarré l'aventure d'On n'est pas couché en septembre 2012 aux côtés de Laurent Ruquier. Et alors pendant 3 ans, Aymeric Caron, je dois dire que vous avez provoqué des insomnies, certainement chez bon nombre d'invités qui voyaient avec terreur s'approcher la date de tournage comme s'ils allaient subir en fait leur propre procès. C'est votre nature profonde qui s'exprimait ou bien vous jouiez un rôle dans la dramaturgie de l'émission ?
Non, on m'a souvent posé cette question. C'est une question que j'ai toujours du mal à comprendre. Enfin, je la comprends, mais elle m'étonne en tout cas. Je jouais pas de rôle. Ce qui a pu surprendre, c'est que peut-être que par moment, j'ai oublié de mettre certains filtres. En réalité, les choses que j'ai dites, je pense que beaucoup de gens les pensaient devant leur télévision ou n'étaient pas d'accord avec moi. Mais qu'on soit d'accord ou pas d'accord, les gens se seraient exprimés de la même manière. Mais c'est peut-être pas cette franchise qu'on a l'habitude de voir en télé. Je pense que c'est ça qui a pu étonner par moment. Notamment avec les politiques d'ailleurs, plus qu'avec les artistes, parce qu'en réalité, quand on refait la liste de toutes les émissions que j'ai pu enregistrer pendant 3 ans, il y a eu très peu de fight, de clash, comme on appelle ça, avec des artistes.
C'était plus avec en théorie, ont le cuir plus fragile que les politiques, quand même.
Oui, absolument.
Ils sont plus aguerris. Ouais. Mais par exemple, avec qui avez-vous eu le sentiment, peut-être, a posteriori, d'être allé un petit peu trop loin ?
Il y a eu un moment où... moi, je pense, de toute façon, quand on arrive dans cette émission... Surtout quand, comme moi, on n'est pas très connu. Enfin, les auditeurs d'Europe 1 me connaissaient un petit peu, mais le grand public ne me connaissait pas.
Vous allez dire qu'il faut s'imposer.
C'est même pas ça, c'est qu'on se demande ce qu'on fait là. Et oui, moi j'ai toujours... je me posais vraiment la question de savoir si j'avais ma place. Laurent a eu la gentillesse, Laurent Ruquier, de me recruter parce qu'il m'avait entendu sur les chaînes info, sur Europe 1, etc. Il pensait que je ferais l'affaire, mais moi j'en étais pas persuadé. Donc peut-être que pendant la première année au moins, la première année et demie, j'ai voulu vraiment prouver que oui, j'avais ma place, que je savais titiller les invités, que je savais leur parler avec franchise, et ainsi de suite. Et surtout que je ne calculais pas. C'est-à-dire que quand on est intervieweur, il y a des choses qu'on va s'interdire de dire non, parce que là, attention, si je dis là, je vais un peu trop loin, je ne voudrais pas me froisser avec cette personne parce que ça pourrait m'être préjudiciable pour la suite de ma carrière, ainsi de suite. Et moi, je ne me posais jamais cette question. Je ne me dis jamais, tu ne poses pas la question parce que peut-être que ça va te bloquer un jour dans ta carrière. Bon, en réalité, je pense que ça m'a été un petit peu préjudiciable dans un certain nombre de cas, mais si. Je vais quand même donner un moment. Un jour, j'ai fait l'interview d'Amanda Sterz.
Oui.
C'était très juste ce que je disais, c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment aimé son livre. C'était une vérité. Je ne mentais pas, je ne jouais pas. En revanche, j'ai trouvé, après coup, en rentrant chez moi, que la manière dont je l'avais exprimé était trop violente. Et c'était une petite bascule, parce que c'était à début de la deuxième saison.
Oui.
Et je me suis dit, il y a un petit souci, parce qu'en fait, quand bien même... objectivement, t'essaies d'être honnête et de dire que le livre t'a pas vraiment emballé, tu peux le dire un peu autrement. Parce que là, j'avais le sentiment que je l'avais blessé et j'ai jamais voulu blesser les gens. En plus, je faisais un vrai distinguo entre les artistes et les politiques. Les politiques, je considère qu'ils ont le cuir voilà, bien solide. Faut pas hésiter en tant que journaliste à y aller à fond. Un artiste est complètement différent.
Vous l'avez appelé, Amanda Sterz ?
Non, j'ai jamais appelé, mais si elle l'entend, je lui dis. Je lui dis que je trouve que j'ai sans doute été trop dur dans ma manière d'aborder son livre ce jour-là.
Alors on continue de dérouler le fil, Émeric Caron. Après l'aventure d'On n'est pas couché, vous êtes donc concentré sur l'écriture et sur les combats qui vous tenaient à cœur, l'écologie en tête, et vous avez cofondé un nouveau mouvement écologique, le rêve, Rassemblement des écologistes pour le vivant, qui est devenu ensuite Révolution écologique pour le vivant et qui s'est alliée pour les élections municipales de 2020 à Paris à la France insoumise. Alors, je voudrais comprendre pourquoi les défenseurs de l'écologie finissent-ils toujours associés aux partis d'extrême gauche. Par exemple, Angela Merkel n'est pas d'extrême gauche, elle a de fortes convictions écologiques assumées.
C'est une bonne question que vous posez. La rêve à Paris, c'était vraiment un cas unique. N'a pas décidé de s'unir à l'extrême gauche. Il y a eu une liste qui a été constituée avec Daniel Simonet, La France Insoumise, Vicage Dorasso, donc
une grande alliance.
Il y a une alliance très ponctuelle pour une bonne et simple raison, c'est que c'est eux qui ont contacté la Rêve en disant, Daniel Simonet en l'occurrence, écoutez, on est vraiment d'accord avec tout votre programme, on voudrait vraiment vous mettre en avant. Et donc on a été très clair, on a dit, écoutez, on ne participera pas à une liste de la France insoumise, ce n'est pas du tout le rôle de la Rêve. En plus, à l'époque, les Verts nous avaient également proposé de les rejoindre sur leur liste. Et on a dit, on veut bien faire une alliance très ponctuelle pour permettre à l'une des membres éminentes de ce mouvement, Lamia Essem Lali, qui est également la porte-parole de Sea Shepherd France, pour lui permettre effectivement
de s'exposer,
d'être tête de liste dans un arrondissement, le 14e en l'occurrence. Mais la Rêve n'est absolument pas liée spécifiquement à la France insoumise. C'est au contraire un parti indépendant. On avait, pendant les européennes, on a été approché par exemple par Benoît Hamon. Benoît Hamon a eu la gentillesse de... Mais en fait, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que oui, il s'est rapproché de la Rêve, mais j'ai compris lors d'une discussion qu'on a eue avec Benoît que il aurait souhaité que ce soit moi qui incarne la Rêve sur sa liste. Et je ne souhaitais pas, moi, avoir un parcours personnel, en tout cas dans la politique. Et donc, je ne souhaitais pas, moi, me mettre en avant. Donc, en fait, on n'est pas allé plus loin dans les discussions. Mais la Rêve est prête à discuter avec quiconque a le même souci radical de l'urgence écologique. Donc, une fois de plus, on n'est pas du tout, du tout affilié à la France insoumise. Pas du tout. Et au contraire, beaucoup de gens de la France insoumise m'en veulent pour des déclarations que j'ai eues par le passé sur Jean-Luc Mélenchon notamment.
On fait une pause, on retrouve tout de suite Aymeric Caron.
Europe 1.
Aymeric Caron publie chez Albin Michel La revanche de la nature. Aymeric Caron, vous l'écrivez en d'autres couvertures de ce livre, la pandémie du Covid-19 qui a stupéfié la planète et peut-être le dernier avertissement. Nous sommes allés trop loin dans la destruction des écosystèmes et la maltraitance animale. Cette revanche de la nature sonne donc le glas du monde d'hier. Alors, on a expliqué au début de cette conversation comment des maladies infectieuses émergentes sont transmises en chaîne par des animaux et comment, par exemple, en Chine, sur des marchés d'animaux sauvages, vivants, destinés à la consommation, eh bien voilà, tels les chauves-souris et les pangolins, se passe donc le phénomène qui contribue à infecter l'homme avec de nouveaux virus. En fait, l'homme a déréglé toute la chaîne du vivant, à la fois par l'élevage intensif des animaux, leur chasse, leur pêche, et leur consommation aveugle, puisque chaque année sur la planète, et le chiffre est absolument terrifiant, l'homme tue, et je parle uniquement d'animaux terrestres, même pas d'animaux marins, 70 milliards d'animaux.
Je sais ce chiffre. Alors en même temps, c'est un chiffre qui est tellement énorme qu'il ne représente plus grand-chose.
Si on additionne les animaux marins, on arrive à combien chaque année?
Les animaux marins sont entre 1000 et 3000 milliards. Entre 1000 et 3000 milliards d'animaux marins qui sont... exterminés chaque année par la main de l'homme. On considère que dans 2050, il y aura sans doute autant de plastique dans l'océan que d'animaux. Les espèces d'animaux sauvages ont vu leurs effectifs baisser de 80 à 99% en un siècle. Donc bientôt, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus que quelques individus qui seront préservés dans des réserves naturelles. Et on les regardera comme des vestiges du passé. Et il y a fort à parier que si on continue dans notre logique actuelle, il n'y aura plus sur Terre comme animaux que les humains et ceux qui sont engraissés dans des fermes géantes pour nous nourrir. Et puis quelques-uns dans des laboratoires aussi pour subir des expérimentations.
Alors Aymeric Caron, vous vous définissez comme antispéciste et vous rêvez donc d'une civilisation antispéciste. Expliquez-nous.
Alors le spécisme, c'est cette philosophie qui consiste à considérer d'une part qu'il faut faire le tri parmi les animaux qui existent aujourd'hui en considérant qu'il y a certains d'entre eux qui doivent vraiment être extrêmement bien traités, chouchoutés. Ce sont nos animaux de compagnie comme les chiens, les chats qu'on emmène chez le vétérinaire, qu'on emmène en vacances, qui sont vraiment comme des membres de notre famille. Et puis qu'il y a d'autres animaux qu'on pourrait traiter comme des objets, à savoir les cochons, les vaches, les poulets. Ce sont ces animaux qu'on élève pour nous en nourrir. Alors qu'en réalité, la biologie nous apprend tout simplement et l'éthologie que ce sont des animaux. Tous ces animaux non humains ont des caractéristiques extrêmement proches en termes de sensibilité à la douleur, de vie sociale. Ce sont des animaux qui sont très similaires et qui d'ailleurs sont aussi très proches de l'homme, notamment le cochon. Le cochon est un animal qui est plus proche de l'homme que le chien. Donc le spéciste fait ce tri et l'antispéciste dit cessons de faire comme ça des catégorisations parmi les animaux.
Il n'y a pas de suprématie de l'être humain sur les autres espèces.
Et d'autre part, c'est le deuxième aspect du spéciste, c'est de considérer que les animaux humains, puisque nous sommes des animaux, les humains en tout cas, seraient supérieurs à tous les autres animaux non humains et on aurait le droit de faire subir à des animaux non humains ce que nous n'accepterions pas.
Mais alors si on est antispéciste, on donne les mêmes droits aux insectes, par exemple, qu'à tous les mammifères ?
Non, pas du tout. L'antispéciste ne demande pas une égalité de droit entre tous les animaux, mais une égalité de considération. La considération, c'est-à-dire que à douleur égale, considération égale. Les antispécistes demandent en gros quatre droits essentiels. Le droit pour tous les animaux non humains sensibles, le droit de ne pas être tué, donc tout animal aurait le droit de vivre sa vie, le droit de ne pas être emprisonné, le droit de ne pas être torturé, donc pas d'expérimentation, et le droit de ne pas être vendu, puisque c'est bien évidemment la marchandisation de ces animaux qui provoque tous les autres méfaits.
Alors, Aymeric Caron, vous n'êtes pas seulement végétarien, comme 2% de la population française aujourd'hui.
Qu'on est plus.
Maintenant un petit peu plus.
Je pense qu'on doit être au moins 5% vegan, on est peut-être à 1%.
D'accord.
Sachant que les études, c'est assez compliqué de les mener, parce qu'on n'a pas des sondages extrêmement fiables.
C'est fluctuant. Ouais. En tout cas, vous n'êtes pas seulement végétarien, vous êtes vegan, c'est-à-dire que vous ne mangez pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf, pas de beurre, et vous ne buvez jamais de lait. Donc, vous ne consommez...
De lait de vache, même si...
Voilà.
Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire du lait pour des laits de soja,
oui,
etc.
Oui, c'est ça.
Mais je bois des laits qui ne sont pas des laits de vache ou de chèvre.
Mais ça veut dire que vous ne consommez aucun gâteau haché dans une pâtisserie traditionnelle. Vous ne pouvez pas dîner dans un restaurant classique. Il faut qu'il soit absolument vegan.
Non, je dîne dans des restos classiques. Simplement, je demande au serveur si le plat qu'il va me servir est vegan ou pas. Je regarde dans la carte, est-ce que ce plat est vegan ? Et parfois, il enlève un ingrédient d'un plat pour faire en sorte qu'il soit vegan.
Mais vous avez une petite fille en bas âge. Il n'y a pas de risque de carence pour une enfant vegan ?
Non, l'association des diététiciens américains, qui représente à peu près 70 000 membres, considère qu'on peut être végane à tout âge, à partir du moment où c'est un régime équilibré, suivi par un nutritionniste. Donc une femme enceinte peut être végane, un bébé peut être végane, donc il n'y a pas de risque. Après, en ce qui concerne ma fille, je vais être tout à fait honnête, il y a une petite particularité, c'est que ma femme est végétarienne et pas végane. Donc ma femme a fait le choix, elle, de ne pas limiter
oui.
totalement.
Elle élève sa fille selon ses principes à elle et pas forcément selon les vôtres.
Je ne peux pas lui imposer.
Bien sûr.
Il se trouve que... Mais ma fille, là, est devenue végane, mais il y a eu par moments des petites exceptions au régime strictement végane, puisque ma femme a sa liberté de conscience et qu'elle considère qu'elle préfère le végétal. Enfin, préfère. En tout cas, pour un certain nombre de raisons, elle a fait quelques entorses au régime végane.
Alors, pour vous, une société qui prend soin du vivant est une société qui, en plus d'être végane, ferme les eaux, donc arrête bien sûr toute forme d'élevage, et qui revoit même son rapport aux animaux de compagnie, c'est-à-dire nos chats et nos chiens. Là, ça devient quand même complexe, parce que vous savez bien que, par exemple, la vie d'un chat sauvage ou d'un chien errant est un pur cauchemar.
Vous avez raison. Il y a des antispécies qui considèrent que nous, humains, ne devrions plus avoir aucun rapport avec les autres animaux, puisque à chaque fois, nous serions dans une relation de domination avec cet autre animal. Moi, je suis beaucoup plus modéré par rapport à ça. Vous avez raison sur le cas des chats, par exemple, que nous avons domestiqués, hein, puisqu'au départ, il n'y a aucun animal domestique. Hein, c'est nous qui avons à chaque fois créé cette relation de proximité. Les chats, aujourd'hui, on peut considérer qu'une bonne partie d'entre eux ont une vie un peu plus cool, un peu plus peinard, un peu plus agréable, un peu plus longue aussi, lorsqu'ils sont en présence d'humains qui les traitent bien. Même chose pour les chiens, car en effet, ils évitent les bagarres, les maladies, la préoccupation de la nourriture, etc. Et de fait, les chats domestiques vivent plus longtemps que les chats sauvages.
Mais oui.
Voire deux fois plus longtemps, je crois. Donc, moi, je suis assez favorable à ce qu'on conserve des relations avec des animaux, mais qui sont adaptées. Et les chats et les chiens, elles sont parfaitement aujourd'hui. Et on voit que ça peut être même une relation réciproque extrêmement profitable aux deux parties.
Juste avant de faire une pause, Émeric Caron, j'aimerais évoquer quelque chose qui m'a tellement frappé et désespéré dans ce livre. J'ai appris en vous lisant que le gouvernement chinois venait d'autoriser la fabrication d'un médicament à base de bile d'ours pour aider les malades du Covid-19. Alors, ça, c'est très utilisé dans la médecine chinoise depuis plus de 1000 ans, la bile d'ours. Mais il faut savoir que pour obtenir de la bile d'ours, eh bien, on emprisonne l'animal, donc depuis sa naissance, dans une cage volontairement trop étroite pour qu'il ne puisse absolument pas bouger. Deux fois par jour, on lui prélève la bile avec un cathéter qui est placé à l'intérieur de sa vésicule biliaire. Et puis, on l'affame totalement pour qu'il produise davantage de bile. Et le cauchemar peut aller encore plus loin, puisque parfois, quand l'ours dort, on le drogue pour ça, on lui coupe une patte, car en fait, les pattes d'ours sont vendues très chères pour faire des soupes, très appréciées. Et le lendemain, eh bien, on recommence à lui prélever de la bile avec les cathéters. Voilà ce qui se passe en Chine en 2020.
Ouais, absolument. C'est pas qu'en Chine, dans les pays environnants, ça existe aussi, environnant à la Chine. En Chine, c'est vraiment pas le pays des droits de l'animal, ça c'est clair, en Asie en général.
On pourrait étendre aussi en disant que pas tout à fait celui des droits de l'homme.
Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, souvent les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on voit que quand il y a un progrès moral qui touche les humains, eh bien ça touche les non-humains un petit peu après. Donc c'est pour ça que cette réflexion liée aux droits des animaux est particulièrement importante aussi. On sait, hein, les Chinois, la médecine traditionnelle, utilisent toutes sortes de parties de l'animal, tout ce qui est possible. Hein. C'est souvent lié à des croyances qui ont été aucun fondement médical, mais c'est comme ça. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on stigmatise uniquement les pays lointains. En Europe, en France...
Ah non, c'est juste un constat.
Non, mais il se passe des choses assez terribles chez nous. Hein. En Alsace, on a des laboratoires avec des petits singes qui sont utilisés aujourd'hui pour des expérimentations animales. On a la compagnie Air France qui continue à importer des singes pour des expérimentations. Il y a des élevages où les animaux sont extrêmement maltraités chez nous, des élevages de chiens, des élevages d'autres animaux. Donc, bien évidemment, il faut condamner... toute pratique en Espagne aussi, il y a des manières de traiter des chiens qui sont absolument terribles liées à la tradition. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que les mauvais traitements aux animaux sont encore extrêmement répandus dans le monde entier. Les animaux sont encore bien trop souvent considérés comme des simples choses dont on nie absolument la sensibilité et la capacité à éprouver de la douleur.
Et parallèlement à cela, eh bien, le trafic d'écailles de pangolins se poursuit.
Bien sûr.
Et il est très juteux et on en parle après cette pause. À tout de suite avec Émeric Caron. Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour corriger le tir. Émeric Caron fait paraître chez Albin Michel La Revanche de la Nature. Émeric Caron, est-il vrai qu'au mois d'avril, en pleine pandémie donc du Covid-19, une cargaison de 6 tonnes d'écailles de pangolins destinées à la Chine a été saisie en Malaisie, une cargaison que les Chinois s'apprêtaient à acheter pour 18 millions de dollars? 6 tonnes d'écailles de pangolins.
Oui, alors on n'est pas sûr tout à fait de la destination, mais absolument, c'est une ONG qui s'occupe du vivant. C'est le Robin des Bois,
je crois,
hein, qui avait dénoncé ce scandale. Bien évidemment, on n'apprend rien de nos erreurs, nous humains, en tout cas extrêmement peu. On sait que le pangolin, enfin on sait, on ne sait pas avec certitude absolue, mais il y a un fort doute sur le fait que le pangolin soit l'hôte intermédiaire de ce virus entre la chauve-souris et l'être humain, du SARS-CoV-2, et en raison du fait qu'il est tout simplement braconné de manière complètement illégale, parce qu'en principe c'est une espèce protégée, depuis des années et des années. C'est un petit animal extrêmement adorable, inoffensif. Et donc, en tout cas, cet animal, aujourd'hui, en effet, continue à être braconné, malgré... Pourquoi pour ses écailles en plus, hein, encore une croyance, on parlait à l'instant des croyances médicales qui n'ont pas de fondement. Bref, voilà, parce que ces écailles auraient des vertus médicinales. Et ça continue, bien évidemment.
Alors, il y a une chose qui m'intrigue vraiment, et elle m'est inspirée en fait par le dissident chinois Liao Yiwu, qui est exilé à Berlin et qu'on compare souvent à Solzhenitsyn. Le confinement de Wuhan a commencé le 23 janvier. Quelques jours après, plusieurs dizaines de villes chinoises, dont Pékin, Shanghai, étaient confinées. Et tous les vols intérieurs en Chine ont cessé. Mais pas les vols extérieurs. C'est-à-dire que des dizaines de milliers, peut-être une centaine de milliers de Chinois, ont continué de se rendre en Europe et aux États-Unis. Qu'est-ce que le gouvernement chinois avait en tête pour permettre à tous ces voyageurs chinois en pleine pandémie de se rendre en Occident ?
Je ne suis pas sûr que tout le trafic intérieur ait été complètement à l'arrêt pendant cette pandémie en Chine, parce qu'il y a toute la Chine n'était pas touchée de manière égale par ce virus. Il y a eu ce qu'on appelle les fameux clusters, donc des endroits qui ont été effectivement complètement fermés, des gens isolés. Mais je trouve que la Chine a quand même été assez efficace en termes de fermeture, me semble-t-il. Moi, je trouve que nous, on a été assez laxistes. Moi, je suis assez étonné de constater qu'en France, lorsqu'on a eu conscience que ce virus était apparu en Chine, lorsqu'on a eu l'information, je suis étonné que nous, par exemple, on n'ait pas fait des contrôles à la sortie des avions. On aurait pu le faire.
Absolument.
Avec des contrôles de température, un isolement pour des passagers, un petit questionnaire, enfin voilà, il y avait des choses à faire.
Évoquons justement toutes les propositions pour ce fameux monde d'après, puisque en bandeau sur votre livre est écrit 27 leçons pour le monde d'après. Les propositions des 150 de la Convention citoyenne pour le climat étaient quand même des mesures, les propositions qu'ils ont faites, des mesures assez singulières. Pas très loin des mesures qu'on pourrait appliquer par les sociétés Amish. Sur le plan social, leurs propositions, par exemple.
Soyons tous Amish.
Non, mais vraiment, sur le plan social, leurs propositions, par exemple, de 28 heures de travail par semaine à la place de 35 heures, a été repoussée. Mais vous êtes plus radical, Émeric Caron. Vous dites qu'il est temps de ne travailler que 15 heures par semaine. Alors, c'est pas là la comparaison que je fais avec les Amish, hein. C'est pour d'autres propositions.
Non, mais ça me dérange pas.
Mais alors, parlons des 15 heures par semaine. 15 heures par semaine, pause déjeuner et trajet compris, on ne travaille plus.
Non, c'est hors pause déjeuner, hors trajet, hein, je vous rassure.
Je vous provoque.
Non, mais je dis 15, ça peut être 16, ça peut être 20. Keynes, qui n'était pas un dangereux gauchiste, même si certains le pensent peut-être, Keynes, lui, avait prédit qu'au XXIe siècle, nous ne travaillerions plus que 15 heures. C'était l'évolution logique du capitalisme. Mais ce n'est pas le seul. John Stuart Mill, le philosophe, qui était un philosophe libéral, disait la même chose. Il ne parlait pas de 15 heures. Il lui disait, mais viendra un moment où le capitalisme aura produit suffisamment de biens pour que nous soyons heureux, pour que nous ayons assez à notre disposition.
Mais ça sera dans un monde robotisé, alors,
par exemple. Faire en sorte que nous travaillions moins et que nous profitions davantage des autres, notre famille, que nous consacrions à la culture, aux loisirs, et ainsi de suite. Parce que c'est des gens qui, initialement, imaginaient que le capitalisme devait nous mener à un bonheur individuel en nous libérant d'un certain nombre de contraintes. Et c'est là que le capitalisme a échoué dans sa forme actuelle, c'est qu'au contraire, il nous enferme dans des contraintes toujours plus lourdes. Et là, on le voit bien.
Mais 15 heures, pour vous, ce n'est pas une utopie.
Non, pour moi, au contraire. C'est effectivement, ce chiffre fait extrêmement peur, parce qu'on se dit, mais c'est complètement irréaliste. Mais en réalité, On voit bien qu'il y a une destruction aujourd'hui du travail, liée notamment au progrès, hein, liée à la mécanisation, liée à l'informatisation.
Mais c'est pour ça que je vous parlais de la robotisation,
par exemple. Oui, mais ce n'est pas forcément un mal. Ce n'est pas forcément un mal si on considère que cette technologie nous libère de tâches qui ne sont absolument pas émancipatrices. Hein. S'il s'agit, par exemple, de serrer des boulons toute la journée dans un atelier, ce n'est pas vraiment ça qui permet à un individu de s'épanouir. Et les machines nous ont libérés quand même d'un poids certain. Et je pense qu'il faut prendre cette opportunité. Donc un écologiste, pour moi, ne doit pas être contre le progrès. Il doit prendre le meilleur du progrès, mais pour libérer l'humain, pas pour l'enfermer. Ce qui est terrible, c'est d'être prisonnier de la technologie.
Mais bon, le sujet est si passionnant, on pourrait continuer d'en débattre. Parce qu'il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec vous. Autre question qui fâche, Aymeric Caron. Dans un avenir proche, je sais que l'un de vos souhaits les plus chers est que la France sorte vraiment du nucléaire. Mais vous savez très bien que les énergies renouvelables qu'on nous propose produisent peu d'électricité. Par exemple, les éoliennes. Il faudrait que la France soit intégralement recouverte d'éoliennes pour répondre à nos besoins en énergie. Et encore, ça ne suffirait pas.
En fait, il n'y a pas une question, une réponse unique à cette question de l'énergie. C'est pas que les éoliennes, c'est le solaire, c'est la biomasse, c'est les économies d'énergie. C'est des logements mieux isolés. C'est-à-dire déjà, on va consommer moins d'énergie en faisant en sorte qu'on construit des logements, des machines qui demandent beaucoup moins d'énergie. Et aujourd'hui, au contraire, on a fait d'énormes progrès dans les énergies renouvelables, ce qui fait que, par exemple, ces énergies renouvelables, désormais, concurrencent financièrement le nucléaire pour le consommateur. Et elles seront même moins chères, là, dans quelques années, que le nucléaire.
Oui, mais alors, je me suis renseignée. J'ai constaté que le nucléaire, en fait, produisait moins de CO2, par exemple, que le pétrole, que le gaz naturel, que le charbon. C'est certifié d'ailleurs par le GIEC. Le pire, c'est le charbon. Le nucléaire émet aussi peu de CO2 que l'éolien.
Oui, mais la question n'est pas là. La question du nucléaire, ce n'est pas tellement celle du CO2. Là-dessus, on sera d'accord de toute façon.
C'est celle des déchets.
C'est celle des déchets et du danger. C'est-à-dire, il y a un danger. Il y a la question nucléaire, c'est le problème de ne pas savoir maîtriser cette technologie. On a bien vu Fukushima. Il y a eu d'autres.
Mais ça, c'était
un
tsunami. C'était un tsunami.
Oui, mais ça veut bien dire qu'on n'est pas prêt, nous, à faire face à une catastrophe naturelle avec des centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les protéger suffisamment.
Mais le dernier tsunami en
Tchernobyl,
France.
Tchernobyl, c'était pas un tsunami. Et nos centrales sont extrêmement vieillissantes. Nos centrales arrivent en fin de vie. La durée de vie d'une centrale, c'est 40 ans à peu près. Donc aujourd'hui, on a un choix à faire. Est-ce qu'on réinvestit des sommes massives, soit pour consolider nos centrales de manière extrêmement relative, parce qu'en réalité, on ne contrôle pas cette sécurité, on n'est pas sûr à 100%. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est les déchets. On fait quoi des déchets? Personne n'a trouvé la solution jusqu'à présent. Et des déchets, ça dure des centaines de milliers d'années.
Bon, de toute façon, Aymeric Caron, le deuxième réacteur de Fessenheim a été débranché le 30 juin. Voilà, vous pouvez être rassuré. On se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Bon, on l'a compris, Aymeric Caron, sous la forme d'un journal de bord, ce livre tenu pendant la pandémie du Covid et intitulé « La revanche de la nature » qui paraît chez Albin Michel, ce livre propose des pistes pour construire ce monde d'après qui ne sera vivable que si on le repense de façon radicalement différente. Mais encore, faut-il agir? Et pour ça, eh ben, le problème en fait vient-il du fait que nous ne croyons pas ce que nous savons?
Ouais, on peut le formuler comme ça, en tout cas, ou disons que nous sommes devenus impuissants face à notre toute-puissance. Ou alors, Günther Anders, philosophe que j'adore et je trouve qui est essentiel et qu'on devrait relire aujourd'hui, nous dit que nos capacités de création dépassent aujourd'hui nos capacités d'imagination. C'est-à-dire que nous faisons des choses, nous créons des machines, des inventions, qui ont des conséquences que nous n'arrivons pas à mesurer parce qu'elles dépassent notre entendement. Et lui, il avait été particulièrement marqué par deux choses, par la Shoah et par les bombes atomiques qui avaient été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, en disant ce degré de destruction est tel qu'il nous devient presque anodin pour chacun d'entre nous, parce que quand on largue une bombe sur Hiroshima et que ça fait 100 000 ou 200 000 morts, le pilote qui largue cette bombe n'arrive pas, lui, à conceptualiser la destruction de 100 000 vies.
Est-ce que vous avez mis en pratique tout ce que vous souhaitiez faire depuis que vous avez arrêté la télé, Aymeric Caron?
Oh, certainement pas. J'imagine que non. Si on faisait une liste, je crois que je serais pris en défaut sur plein de choses.
Sur non. Quoi, par exemple?
J'en sais rien, mais on n'arrive jamais à être parfait. On a beau avoir des principes, on essaie de s'y tenir, mais de toute façon, la perfection n'existe pas.
Mais vous approchez de celui que vous désiriez être?
Globalement, oui, parce que je suis à peu près en accord avec mes idées. Après, j'ai encore beaucoup de projets, de rêves qui n'ont pas été réalisés, mais j'en ai réalisé, je dois avouer. C'est terrible d'ailleurs, parce que peut-être que je n'ai pas assez d'ambition, parce que j'ai réalisé une grande partie de mes objectifs d'enfant ou d'adolescent. Donc, je suis dans une période de ma vie un tout petit peu particulière parce que professionnellement, j'ai plus vraiment d'ambition.
Mais tout à l'heure, je disais que vos amis vous décrivent comme l'antithèse du carriériste. Et il paraît que, en fait, vous êtes celui qui disparaît toujours au sommet d'une réussite.
Ah
c'est
bon
vous qui prenez la porte, vous décidez hop, de vous aiguiller
je sais
comme
pas,
ça autrement.
Se présenter comme ça, c'est flatteur. Ceux qui ne m'aiment pas diraient il n'est jamais content. mais j'ai la bougeotte et c'est vrai que je suis peut-être un peu trop intransigeant. Et c'est vrai que quand ça ne me plaît pas, je vais couper les ponts.
Intransigeant, c'est ce côté protestant, puisque votre maman
doute,
est protestante, néerlandaise. Bon, cette rigueur comme ça, cette intransigeance, cette inquiétude qui vous empêche de vous relâcher, ça vous colle toujours à la peau.
Oui, c'est terrible. C'est terrible, vous avez complètement raison d'appuyer là, à cet endroit précis, parce que mon protestantisme, à mon avis, explique beaucoup de choses de mon caractère
moi,
et de mes
l'impression.
Combats.
J'ai l'impression.
D'ailleurs, beaucoup de militants du vivant et des droits des animaux étaient des protestants. Donc c'est peut-être un hasard, ou peut-être pas.
Sans doute pas. Bon, Aymeric Caron, j'aimerais qu'on termine cette conversation sur un épisode que vous avez vécu en 2002, quand vous étiez reporter de guerre, couvrant la controverse des armes de destruction massive en Irak, et vous vous en trimballez par Sean Penn, en taxi,
oui,
dans les
vrai.
Rues de Bagdad.
Ouais.
Ça ressemble carrément à une scène de film, et pourtant vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous faisiez avec Sean Penn à Bagdad?
Ouais, c'est vraiment un hasard. J'étais, effectivement, c'était décembre 2002, et j'étais venu faire des reportages en préparation de cette guerre hein, qui arrivait, dont on savait qu'elle arrivait. Et un matin, j'apprends par le service de presse irakien que Sean Penn est arrivé en toute discrétion la veille et qu'il est venu là pour faire des repérages, pour se rendre compte. Il est venu avec une association. Mais il n'a vraiment pas médiatisé son voyage. On sait pas
ouais.
pourquoi. Et moi, j'ai cette info. Et à tout hasard, je demande à un contact là-bas si oui ou non je peux le rencontrer. Et il dit oui tout de suite. Et c'est vrai que de ce fait, on va passer une après-midi ensuite, le lendemain, dans Bagdad, à discuter. Je vais faire
quel contexte incroyable
Mais oui, parce qu'on est en taxi. Et la vie, c'est tellement improbable de se dire qu'on est dans un taxi tout poussiéreux dans le cœur de Bagdad avec Sean Penn, qui en plus à ce moment-là, il est au sommet de sa gloire. Et ça, effectivement, ça ressemble à un rêve, à quelque chose d'irréaliste. Et on s'est discuté.
Alors,
et
de quoi étaient faits vos échanges?
De tout et de rien, de politique, puisqu'il m'expliquait la raison de sa motivation à faire le déplacement jusqu'à Bagdad. Et je me souviens de cette phrase. Il m'a dit, je me souviens de cette phrase parce qu'elle était très claire, très précise et assez forte. Je suis venu regarder dans les yeux les gens que mon gouvernement s'apprête à bombarder.
Oui, parce que c'était 2 mois et demi avant
voilà.
le début officiel de la guerre d'Irak.
Absolument, c'était ça. Et on a parlé vraiment de tout de rien. Je me souviens qu'il m'a interrogé sur ma vie personnelle, sur ma vie familiale. Enfin, c'était... ouais, c'est un moment les plus étonnants de ma vie de journaliste.
Gloire aux hommes de bonne volonté. Aymeric Caron, La revanche de la nature, 27 leçons pour le monde d'après, vient de paraître chez Albin Michel. Je vous remercie infiniment.
Mais c'est moi qui vous remercie pour votre écoute, pour vos questions et pour avoir pris tout ce temps. Merci Isabelle, c'était vraiment très très agréable.
À bientôt.
À bientôt.